C'est la suite de l'évangile d'hier, en fait. Hein. C'est le chapitre 7 de l'évangile de Saint-Luc, versets 1 à 17. Jésus est allé vers une nation pour pratiquement ressusciter un esclave. Il est allé vers le centurion. Jésus avait dit, hein, juste avant Saint-Luc, c'est très précis, aux Juifs, notre nation n'a pas reçu du prophète, n'a pas reçu la grâce messianique, n'a pas reçu le Fils. Alors, toute la grâce de Dieu depuis le principe, depuis Abraham, depuis Moïse, vous est retirée et donnée à une autre nation qui lui donnera, elle, son fruit. Les centurions, vous le savez, étaient de Narbonne, d'un Français. C'est Sainte Agathe qui dit que quand il a dit ça, Jésus, regardez, il a mis le doigt vers les rois, vers tous les Français, tous les Gaulois qui étaient là, tous les Romains, qui n'étaient pas des Romains du tout. C'était tous des... Eh bien, quand le centurion n'est même pas venu vers lui, il a anticipé. Il dit, je ne suis pas digne. Je n'ai pas la dignité, je n'ai pas la vie divine, je n'ai pas la grâce messianique, je n'ai pas la vie surnaturelle, je n'ai pas... je n'ai rien de tout ça. Ne rentre pas chez nous. Alors, il y a cette parole des évangiles qui dit que Jésus s'arrêta net. Et il fut frappé d'admiration. Et aussitôt, Jésus, qui allait chez lui, s'est retourné. Il y avait derrière lui une immense foule qui allait. Aussitôt, Jésus s'est retourné, frappé d'admiration. Et il a dit, jamais, en Israël, je n'ai vu une foi semblable à celle-ci. Et comme il était retourné, eh bien, il est reparti. Et en repartant, chapitre 7, Luc chapitre 7, 1, 7, verset 7, verset 8, il passe par la cité de Naïm et il voit qu'une autre foule sort de la cité avec une veuve et donc un fils unique. C'est extraordinaire ça. Mais la foi de la nation qui doit faire produire son fruit, c'est la foi de Marie qui emporte son fils dans le Saint-Sépulcre, son fils unique, et il le ressuscite. Et la foi du royaume de France, c'est la foi qui doit ouvrir les portes de la grâce d'affinité avec la corrédemption de Marie qui enfonce son âme en même temps que l'âme déchirée de Jésus dans la croix glorieuse. La croix glorieuse, disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne de la France, doit se planter sur la terre infidèle, la terre promise de la France. Alors, c'est quand même quelque chose dans les jours où nous sommes là, 2022. C'est sûr qu'il y a une... Pour pas... Alors bien sûr, moi, je, personnellement, vous pouvez profiter d'avoir l'indulgence plénière. Parce que, si vous avez la foi, vous allez voir que Jésus, venant vers vous pour faire quelque chose, un miracle ou autre chose, il va s'arrêter net, il sera stupéfait, il va se retourner vite pour vous emporter porter la France jusqu'au mystère de compassion. Jusqu'au mystère de compassion, c'est le mystère d'affinité. Hein. Nous avons été conçus par Dieu et 36 ans après que nous avons été reçus l'ordination de prêtre. Et ça, c'était il y a 36 ans. Ça fait 2 fois 36, c'est bon. Et 2 fois 36, c'est 72. Et 72, c'est l'âge de l'Immaculée Conception dans sa dormition. Personne ne sait où est le tombeau de la dormition. Personne. Comme disait une stigmatisée de Belgique, qui s'appelait Maria, oui. Maria Poute, elle disait de pouvoir inventer, c'est-à-dire découvrir et ouvrir le tombeau de Saint-Sépulcre de la Dormition de Marie, c'est réservé. C'est réservé. Je ne sais pas à qui c'est réservé. C'est réservé. Elle a dit c'est réservé à deux. C'est réservé à deux. Deux prêtres.
Oh non, 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 radical. Oui, bien sûr, prophète et roi.
Deux prêtres. C'est vrai. Qui sont tous les deux prêtres, immaculés et parfaits. Rencontrer ces deux, j'aimerais beaucoup rencontrer ces deux prêtres pour leur courir derrière autant que je peux. Ah, ouais, non, c'est pas ça. Et nous fêtons aussi donc l'anniversaire de la première apparition de la croix glorieuse à l'occasion donc. La crucifixion de Saint Jean-Gabriel Péropoire. La croix glorieuse est apparue dans l'obscurité de la Chine, dans la ténèbre totale hein, de la Chine. Pas le jour du 14 septembre, pas le jour de la croix glorieuse, mais le jour de la Saint-Jean-Chrysostome, la veille, 24 heures avant. La croix glorieuse, la croix glorieuse, elle est, et on le sait grâce à Saint Jean Gabriel, peu importe, la croix glorieuse, elle embrasse corporellement la résurrection dans le cœur de Marie au jour du grand sabbat. 24 heures avant la résurrection du Christ. Et on le sait aujourd'hui, puisque quand on va à Jérusalem, c'est effectivement 24 heures avant que le feu jaillit du tombeau. Et avant qu'il ne jaillisse du tombeau, vous savez, moi je peux vous le dire, je l'ai vu tous mes yeux. Et il y a dans le Saint-Sépulcre des gloires silencieuses, totalement silencieuses, des éclairs, totalement silencieux. Et ces gloires sont immaculées, elles sont lumineuses, immaculées, et les éclairs aussi, d'un silence total. Et elle se rassemble autour de l'édicule à l'intérieur duquel se trouvent les deux grands prêtres de la deuxième Rome et de la troisième Rome. Et là, il n'y a plus d'éclairs, il n'y a plus de gloire. Elles ont transfiguré le dôme de l'édicule. Elles ont rentré dans le, un ridicule qui est plus petit que cet oratoire.
Oui.
Et se sont silencieusement, comme la rosée dans la verdure, introduites dans la pierre du tombeau où tout Jésus était enveloppé dans un linge. Et puis, le feu a créé en sort immédiatement, parce que la résurrection qui est dans l'âme de Jésus s'est emparée de la reine, s'est emparée, elle a envahi la résurrection de l'âme de Joseph, et ces deux résurrections d'âmes séparées avaient besoin d'un corps pour que cette gloire puisse être incarnée. Et en raison de la sponsorité, c'est le cœur de Marie qui a été saisi par le même feu que celui de la résurrection pour faire d'elle la mère de la résurrection de Jésus et de Joseph. Et ça, on le sait. On le sait. On le sait que c'est ce jour-là. Et c'est bien que la première Rome, elle, pour des raisons que incompréhensibles, ont abandonné la date véritable du mystère du grand sabbat et du feu incréé du Christ sortant du tombeau pour indiquer la date de... C'est pour ça que le pape, avec les mérites du roi, du nouveau Moïse, du nouveau Yohanan, Ben Zebeda, Akabod, Kadesh. C'est pour ça que nous devons faire le grand pèlerinage. Ce n'est pas à la deuxième Rome et à la troisième Rome de venir dans la première Rome. Non, non. C'est à nous de venir jusqu'à Moscou. De Jérusalem à Moscou. Parce que, c'est vrai, si la tunique sans couture n'a pas été déchirée, hein, c'est à cause du mystère de compassion et glorieux de Marie. Parce que Marie a été, c'est comme ça, source de résurrection dans la transverbération incarnée de la sponsalité. C'est pas elle qui est ressuscitée au jour du grand sabbat. Dans la Torah, il est écrit que personne ne doit faire aucun mouvement le jour du grand sabbat. C'est réservé à Dieu seul. C'est pour ça que Jésus choisit toujours le sabbat pour faire un miracle. Parce que le Seigneur, c'est lui. C'est pour montrer que c'est lui le Seigneur. Il le fait. Il choisit toujours le jour du sabbat. Et en faisant ça, il dit aux Juifs, le Seigneur, Adonai Elohim, c'est moi. Alors, mystère de compassion de Marie. Comment on peut dire, les gens vont dire, les calvinistes par exemple, les anglicans, le roi en barbe bleue. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que vous nous racontez là? Que Marie a engendré la résurrection dans la chair. Vous êtes fous. C'est de la mariolatrie, pas polatrique. Oh. Inacceptable. Et pour pourquoi est-ce que c'est quand même la vérité? C'est parce que, vous voyez, la différence qu'il y a entre la troisième Rome et la première Rome, elle est là. C'est à cause de la sponsorité. Ça ne vous ennuie pas que je fasse un petit catéchisme élémentaire? Le catéchisme de Marie, elle est au pied de la croix avec un corps vivant, incorruptible. Tout le dogme de l'Assomption touche, se base sur l'incorruptibilité et l'immortalité du corps de Marie. Et comme le dit Saint-Père, quand Dieu s'est penché sur la création pour créer la création tout entière, il a saisi ce qui appartenait à ce principe même de création. Et ce principe même de création, c'est la responsabilité. Et il a saisi entre ses mains pour rentrer dans sa toute-puissance créatrice 4. Parce que Dieu est 1, 2, 3 et 4. Il a saisi pour faire 5. Il a saisi la responsabilité entre ses mains. Il a assumé, exactement. Il a assumé l'Assomption. Il a assumé ce qui appartenait à la responsabilité, à l'état pur, à l'état parfait, à l'état universel et à l'état substantiel. Il a assumé ce qui appartenait à la Sainte Famille de. C'est dans son encyclique sur Joseph, la dernière encyclique d'un pape sur Saint Joseph. Alors il a pris ça, et il a pris cher. La responsabilité, le mariage qu'il y a entre Marie et Joseph, est tellement parfaite que vous savez que dans la responsabilité, il y a 100 brebis. Hein. Il y a l'unique nature divine de Dieu, à l'intérieur de l'effacement de l'épouse et de l'époux. Cet effacement total fait qu'ils disparaissent complètement et que dans le corps, la signification sponsale du corps, il n'y a plus que vivant, vivant et incarné. L'au-delà de l'unité des deux. C'est-à-dire que Marie, quand elle est au pied de la croix, elle ne vit pas dans son corps, à elle. Elle vit dans la signification sponsale incarnée de sa sponsalité avec Joseph. Et entre son mariage dans le temple de Jérusalem et cette heure-là, il y avait 36 ans. Ça me touche pas mal. Ça. Et donc, quand la foi catholique nous indique que, depuis Sainte Catherine de Sienne, on le sait de manière explicite, mais on le savait aussi déjà avant, ne vous inquiétez pas, mais c'est devenu dogmatique, disons. Ben, qu'est-ce qui s'est passé ? L'âme humaine de Jésus s'est arrachée en dehors de son corps cadavérique sur la croix. Tout a été frappé, suspendu, un peu comme Jésus dans le centurion. Et tout s'est retourné pour retourner au principe. Tout s'est retourné. L'âme de Jésus était dans la vision béatifique, dans les trois puissances spirituelles. Pas seulement son intelligence dans la vision béatifique, il était face à face avec Dieu glorieusement dans les sommets de son intelligence humaine. Dans les profondeurs de son cœur de charité, les profondeurs de son cœur étaient dans une béatitude et une gloire dans son cœur humain, hein, dans son cœur d'amour humain, dans sa puissance. Il était entièrement glorieux. Cœur de Jésus, dans le fond de son cœur. mais aussi dans sa mémoire. Et il était complètement glorieux du principe de sa création à partir de la puissance sponsale de l'époux, de l'épousée et de, leur, de l'émanation qui s'en produit dans l'acte pur du Saint-Esprit. Parce que, voilà, la Très Sainte Trinité est sponsalité in objecto. Ça, c'est la foi. Et c'est pour ça que c'est en raison de cette toute-puissance que l'âme humaine a été arrachée de Jésus, que l'union hypostatique a été déchirée et que le corps de Jésus s'est trouvé sur la croix et n'était animé que par la sponsalité de la Très Sainte Trinité dans les deux, dans les deux processions agréées de Dieu, trouvant leur terme terminant précisément là. Les deux processions, la Très Sainte Trinité, sont sponsales. Et c'est en raison de l'unité de ces deux processions, dans un terme terminant, que la Créateur de Dieu s'est produit. Et bien par la foi, ce terme terminant de l'unité des deux processions de la Très Sainte Trinité ne s'est trouvé qu'une seule fois. C'est dans la foi de Marie et de Joseph, à l'intérieur de l'instant même de la croix glorieuse. Et c'est ce qui a produit l'arrachement de l'âme glorieuse de l'âme de Jésus qui n'était pas glorieuse, mais qui est devenue aussitôt glorieuse parce que la gloire qui était dans les sommets de son intelligence, des trois puissances spirituelles de sa vie humaine, il n'y avait plus le poids du corps, le poids du corps qui était livré, et du sang. Il n'y avait plus ce poids qui contrebalançait le poids de la gloire, de la résurrection, de toutes les résurrections, de toutes les glorifications de la gloire de Dieu. Le corps n'était plus là pour contenir l'invasion de cette gloire dans l'âme de Jésus. Donc à l'instant où Jésus a été arraché de son corps, aussitôt, la gloire de la résurrection s'est emparée de son âme. L'âme crucifiée de Jésus pendant une demi-heure est entièrement glorieuse, entièrement ressuscitée. Pas dans la chair, mais dans l'âme humaine, justement. Et du coup, en tant que Dieu le Fils est épousé, il s'engloutit dans cette gloire à l'intérieur de la responsabilité à l'intérieur de laquelle qu'il a assumé pour faire la création du monde. Et la création du monde, elle est dans la cause finale, hein. Elle n'est pas dans le bing-bang derrière nous. Chut. C'est pas une cause efficiente, la cause créatrice. Le principe créateur, c'est la cause finale. Donc la cause finale a permis que Jésus, l'âme de Jésus, entièrement glorifiée, glorifie entièrement l'âme crucifiée de Saint Joseph. Mais la gloire de l'âme de Saint Joseph est unie à la gloire sponsale dans laquelle Marie et Joseph se sont réfugiés corporellement jusqu'au jour de la croix glorieuse. Et le corps de Marie est vivant. C'est pour ça que quand on dit qu'on célèbre la messe, on dit bien une chose, ce sacrifice vivant, nous t'offrons le sacrifice vivant, le corps et le sang, le vivant immolé de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vivant, ce corps, parce que le corps de Marie habite à l'intérieur de sa responsabilité. Et il est vivant. Le mystère de la croix. Et ça, c'est à cause de la responsabilité. si vous enlevez Saint Joseph et la responsabilité qu'il y a avec Marie. Eh bien, il n'y a aucune co-rédemption. L'Église n'existe pas. C'est aussi simple que ça. Hein? C'est facile. Mais bien, cette croix glorieuse, et la croix glorieuse, cette croix glorieuse, ce feu à créer, qui transperce totalement le cœur immaculé de Marie, pourquoi est-ce qu'il y a eu une demi-heure avant que ça ne se produise? Il y a eu une demi-heure avant que ça ne se produise. C'est pas à cause du coup de lance, le coup de lance c'est juste, comme dit Dieu le Père à Sainte Catherine de Sienne, c'est juste pour faire savoir ce qui se passe. Visiblement dans l'invisible. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la résurrection sponsale s'est emparée de toutes les cellules, je m'excuse de ce terme technique, mais de toutes les cellules staminales sponsales et glorieuses de Joseph, dans la sponsalité glorieuse de Marie. Et du coup, elle était dans le principe de la création en sa cause finale, et donc elle a été une. Et on ne peut pas séparer ce que Dieu a uni avec le principe créateur. Et du coup, elle a été la source avec la sponsalité incréée. Dans le terminant des deux processions divines, elle a été la source de la résurrection de la chair. Et pour bien le manifester, on va attendre 36 heures. Marie, mais non pas sans Joseph, est au principe, en intérieur de Dieu, de la résurrection de la chair. Principe, ça ne veut pas dire cause principale, puisque c'est une cause, comme dit saint Thomas d'Aquin, instrumentale. C'est même pas une cause seconde, une cause instrumentale. Bon, terminé pour la théologie scientifique. Mais n'empêche que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, qu'on voit le feu incréé, qui nous indique quand même à quel moment cela s'est produit. Et que Marie a dû attendre les 36 heures en question. Il se fit un silence d'environ une demi-heure. Il faut l'arrêt du temps. Elle a dû pénétrer dans la fin et dans l'arrêt du temps. Être effectivement le principe de la résurrection de la chair. Et bien écoutez, je m'excuse, mais le pape François a reconnu pour la première fois, c'était l'an dernier je crois, ou l'avant, que le feu incréé du grand sabbat était le feu incréé véritable à Jérusalem. Parce que jusqu'à maintenant, jamais un pape n'a admis qu'il était juste de dire que le feu incréé jaillissait du tombeau de Jérusalem chaque année à l'heure orthodoxe, à l'heure de la troisième Rome. C'est lui le premier qui a dit c'est le feu incréé du grand sabbat. Et il a honoré et reconnu l'heure. Ce n'est pas l'Église catholique. L'Église catholique, elle ne s'est pas trompée. Elle n'a pas dit ça. Elle ne s'est pas trompée. Mais dans son infaillibilité, elle dit ce n'est pas l'heure de le dire. L'infaillibilité ne consiste pas à dire la vérité, infailliblement, mais elle consiste à dire c'est maintenant qu'il faut le dire. Ben c'est maintenant, c'est la première fois, hein. C'est maintenant qu'on peut dire que le feu créé nous donne la nécessité de faire le grand pèlerinage, le cortège triomphal de toute la chrétienté vers le principe de toute chose dans l'Église apostolique. Et on doit aller à Moscou à cause de ça, avec les enfants. C'est comme ça. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, c'est écrit symboliquement sous la forme. Alors, j'entendis et je vis les sept tonnerres. Les sept tonnerres, c'est quoi? Les bonergues, glorieux. C'est les fils du tonnerre, Jésus, il les a appelés les fils du tonnerre à cause de ça. La succession de la troisième Rome, c'est de Jérusalem à Moscou, c'est Saint-Jacques. Et puis, Jean de l'Apocalypse, les deux, les fils du tonnerre. Cette unité, cette unité eucharistique, de la tunique sans couture. Mon Dieu, je crois que c'est cette année que on en fait émaner la substance. Cette année. Il faudra peut-être attendre une demi-heure, mais c'est cette année que la grâce doit être donnée à l'Église. Normal, 222, puis tu mets... 2022, c'est normal, je trouve que c'est tout à fait normal. Enfin, pour que l'heure soit arrivée, il faut qu'il y en ait un. Un. Pas deux, il faut qu'il y en ait un. Qui touche, en raison de son unité substantielle, par une grâce méritoire de Marie glorieuse, un seul qui touche et qui reçoit la grâce d'affinité avec l'intensité de charité du Sacré-Cœur de Jésus, qui est le même degré d'intensité de charité que le cœur de Marie au jour de sa dormition, et le même degré d'intensité de charité derrière Nan Ben Zebeda. Hakadesh, Hakabot Elohim. Il faut qu'il y en ait un. Un. Et c'est ça, la nation qui doit lui faire produire son fruit. Excusez-moi, je vais continuer encore un peu. Je vous en demande bien pardon. Mais c'est des choses que nous devons savoir proclamer intérieurement sans parole. Pas de chance, il faut que je parle. C'est pas pareil. C'est Amonos Dodgendi, c'est tout à fait différent. Je fais pas de discours de théologie là. C'est Monos Dodgendi. Il y a entre la première Rome et la troisième Rome, mais aussi vis-à-vis de la seconde, il y a une séparation. Et cette séparation trouve son point focal dans le credo. Et dans le credo, nous croyons au Fils consubstantiel du Père. Et nous disons que le Saint-Esprit est in spiritum sanctum dominum, et vivicantem, qui procède du Père filioque procedit. Et ça, pour la deuxième Rome et pour la troisième Rome, c'est une hérésie formelle. C'est une totale hérésie de dire que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Ce que nous disons dans le credo de Constantinople, pas de Constantinople justement, mais dans le credo. Et ça, quand vous rencontrez le pape Alexis, qui est le prédécesseur de Kirill, ou le pape Kirill, ou le pape Hilarion, alors là, s'il te voit, et qu'il te... et que tu dis filioque procedit, il est prêt, sauf si tu as dit Ave Maristella, de casser la figure jusqu'au sang. une haine. À chaque fois que tu as des orthodoxes, tout de suite, figure-toi. Ah, alors là, il faut détruire cette hérésie, la détruire absolument. C'est le point principal. Hein? C'est le point principal qui empêche l'unité de la Pâque eucharistique. Il n'y aura jamais la Pâque eucharistique tant que ce point-là ne sera pas résolu dogmatiquement. Et ça, ça n'est pas encore fait. C'est Paul Evdokimov qui était un orthodoxe à Paris, qui était extraordinaire. Il est mort maintenant. Je me rappelle, je trouvais qu'il était extraordinaire. On le voyait quelquefois à la rue d'Aru. Et il a écrit des livres, c'était vraiment un orthodoxe extraordinaire. Et c'est chez lui que j'ai lu, c'est lui qui a révélé que la sponsalité chez les Pères Grecs, donc la deuxième Rome, la sponsalité était attribuée en propre à la Très Sainte Trinité. Et que la première personne de la Très Sainte Trinité et la deuxième personne de la Très Sainte Trinité ont une relation. Relation, c'est Concile de Constantinople. Donc ça, c'est 5e siècle, 6e siècle. Et entre les premières personnes et les deux premières personnes de la Très Sainte Trinité, il y a une relation de sponsalité. Ça ne vient pas de l'Église catholique. Ça ne vient pas d'un pape slave, Jean-Paul II, qui dit tiens, on va faire un petit discours sur la sponsalité. Non, non, non. Ça vient des pères grecs. Cette proclamation que dans la Très Sainte Trinité, c'est des relations d'époux et d'épouse. D'accord ? De sorte que, maintenant qu'on a l'enseignement du Saint-Père sur la sponsalité, et qu'il dit oui, l'analogie de proportionnalité ontologique la plus profonde, la plus substantielle, unifiante qui soit, c'est celle de la sponsalité dans la Très Sainte Trinité. Le Père est époux et le Fils, le Verbe de Dieu, est l'amour éternel et la lumière éternelle et sa liberté totale dans la deuxième personne de la Très Sainte est épouse, c'est tout, point barre. Et donc maintenant, on a tous les ingrédients, je veux dire, puisque c'est quand même un enseignement ordinaire et universel du Saint-Père, pour reprendre la doctrine des pères grecs de la deuxième Rome et la doctrine de l'Église pour en faire une encyclique. C'est pas compliqué de faire une encyclique. C'est pas compliqué de faire un dogme, si je puis dire. Hein ? C'est pas très compliqué. Il suffit de dire, voilà, le Saint-Esprit procède de l'unité des deux premières personnes de la Très Sainte Trinité. Ce qui est parfaitement exact, parce que c'est la doctrine dogmatique des orthodoxes. Le Saint-Esprit procède effectivement de l'unité des deux premières personnes de la Très Sainte Trinité, mais pas dans la première procession. Pas dans la première procession. La procession de la lumière du Verbe de Dieu, c'est une procession incréée de Dieu, Concile de Constantinople et Concile de Chalcédoine, c'est un procès qui produit la lumière du face-à-face et de l'effacement, mais c'est tout. C'est la deuxième procession de la Très Sainte Trinité qui est spiration. Et la spiration active et incréée de la première personne de la Très Sainte Trinité est la même que l'aspiration active et ancrée de la deuxième personne de la Très Sainte Trinité dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui leur sponsalité ancrée. C'est la deuxième procession, évidemment. Donc ce n'est pas en tant que Père et Fils que le Saint-Esprit émane. Sinon ce serait abolir le Concile de Constantinople. Le Concile de Constantinople décrète infailliblement qu'il y a deux processions, qu'il y a quatre relations subsistantes.
Rejoignez Monseigneur Athanase.
Alors,
il a tout expliqué comme ça. Il nous a tout expliqué comme ça chez Bassoula. Comme vous le dites.
Alors simplement, oui, mais vous rendez compte que ça, c'est ce pape-là est celui qu'il fallait, parce que lui, il va avoir le courage de le faire, ce que les autres ne pouvaient pas avoir le courage de faire, de dire ça explicitement. C'est pas le Saint-Esprit, comment est-ce qu'on... C'est de dire, désormais, nous avons un credo commun. Hein? Le Saint-Esprit, non pas filioque procedit, mais sponsus sponsaque procedit. Et il suffit de le dire d'une manière très simple, tout le monde acceptera. Même les traditionnalistes, wana nanakum, ceux qui ne sont pas unakum pat, parce qu'il n'y a plus de pape depuis Pie XII, hein. Même eux, ils accepteront de dire ça. Le Saint-Esprit émane de l'unité, d'amour, d'inspiration, des deux premières personnes de la très sainte Trinité. Ça, c'est le credo commun à la première Rome, la deuxième Rome et à la troisième Rome. Moi, je me rappelle que quand j'avais ces... Notre-Dame de Domanova, lorsque j'avais cette contemplation, ce partage avec un père ermite orthodoxe, très très orthodoxe, qui était mon voisin. Et il disait, là, évidemment, il n'y a plus de problème. Ça, c'est incroyable, tu disais ça, toute la haine disparaissait. Cette haine compulsive qu'il y avait en eux, à cause de cette division-là. Alors, comment ça vient de Constantinople, bon. Ah bah alors oui, on va quand même pas. Et ça vient du concile aussi de Chalcédoine, Constantinople, concile de Nicée. Alors voilà, je vous dis ça parce que c'est... On est aujourd'hui, hein, cette année, c'est le seul but de la grâce de Dieu dans le monde, le seul but du Saint-Père, c'est sûr. C'est de faire ce pèlerinage à Moscou. C'est sûr que ça ne va pas se faire en disant, voilà, nous avons décidé d'y aller dans 3 mois. Non, 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 on le saura la veille. On ne saura pas avant. Parce que le démon ne veut pas ça. Donc si c'est annoncé à l'avance, ils seront capables de déclencher une guerre mondiale bactériologique sur toute la Terre pour que ça ne se fasse pas. Il ne faut pas oublier que par exemple, les trois guerres de Plan Pike, hein, de 1870, notre Salette l'a dit, hein, c'était pour empêcher que le Concile Vatican I se prolonge encore. Le Concile Vatican I sur l'infaillibilité pontificale a été interrompu pour qu'il ne se prolonge pas par la guerre contre le Tsar, la guerre de Crimée. Et là, à la Salette, la Vierge dit ça. C'est le point focal de l'Antichrist. Napoléon. Et le contrepoint, c'est le roi. Et il faut une grâce méritoire. Il ne faut pas que le pape dise ça, ou le pape dise ça, non, non, on fasse ça, on fasse ça. Non, il faut une grâce méritoire. Il faut une grâce méritoire. Et celle-là, elle est silencieuse. d'un cri silencieux, universel. Eh bien, m'excuse, mais le cinquième sceau de l'Apocalypse ne pourra pas s'ouvrir tant que cette grâce méritoire ne sera pas établie sur le trône de la nation qui doit lui produire son fruit. Cette année-là, tu ne peux pas faire plus vertical que cette année-là. Bon, vous inquiétez pas, je vais dire la messe. Mais je trouve que c'est bien quand même de savoir, de dire ces choses-là avec les mots justes. Mais attention, c'est pas parce que ces mots justes, on les connaît, que c'est facile. Non, parce qu'il faut une grâce méritoire. S'il y a déjà des messages, il y a des messages qui disent « Ah, oh, le pape n'obéit pas !» C'est vraiment n'importe quoi. Et nous, nous avons un rôle à jouer, bien sûr, avec l'animation immédiate de la cohorte des enfants qui sont créés par Dieu. Aucun enfant, aucun, parmi les centaines de milliards, les 200 milliards qui sont avortés aujourd'hui, aucun d'entre eux n'est créé par Dieu sans qu'il l'ait créé à partir de la cause finale, il ne faut pas l'oublier, en sachant que cet enfant, dans sa memoria dei abstrusior, profonditatis memoriae suae, scandaleuse au démon, cet enfant-là, échappe au démon et dit oui à être immolé de la même immolation que l'innocence crucifiée et triomphante de notre Seigneur Jésus-Christ aux premiers instants de sa vie humaine. Ces enfants-là sont avortés, je veux bien, mais ils ont dit oui, librement. À ne pas connaître la vie autre que dans la naissance de la Santissima Bambina, de la compassion de Marie. Ils ne veulent pas connaître une autre naissance que celui de la compassion de Marie. Alors, ils reçoivent du coup une grâce qui est la grâce de l'accomplissement des temps et de la victoire sur tout le mal qui se fait dans le monde. Sinon, Dieu ne les aurait pas créés. Il les a créés en raison de la grâce de l'accomplissement des temps dans lesquels leur liberté primordiale a fait éclater son, leur propre. Acquiescement hein, dans le témoignage du baptême de la fin du monde. C'est clairement dit dans l'Apocalypse que c'est leur martyr volontaire, libre, terminal, dans une gloire, dans un état d'accomplissement et de plénitude qui mérite l'ouverture du cinquième sceau de l'Apocalypse. Et rien d'autre, c'est eux les seuls. C'est pour ça qu'ils passent devant nous et on leur court derrière et si possible, on se met au milieu d'eux. Ah, tout ça, il faut arriver à composer tout ça. Hein. Mais tout va de soi, hein. Moi je trouve. Hein.